Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 141, et aujourd'hui, on continue notre conversation sur le marketing du ressentiment pour parler du ressentiment qu'on vit envers nos clients, nos offres, notre prix, etc.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Je reviens d'une semaine de vacances, ma semaine annuelle où je déconnecte du travail pour, un, me célébrer, mais deux aussi pour, bon, finir cette révolution autour du soleil parce que c'était mon anniversaire. Et j'en profite pendant ce moment-là pour faire le topo de ce qui s'est passé dans les derniers mois, de ce que j'ai envie de créer pour moi dans la prochaine année. Dans le fond, c'est un rendez-vous que je prends avec moi-même pour reconnecter. Puis moi, j'ai besoin de faire ça dans la solitude. Je suis une personne très introvertie et ces moments où j'ai pas besoin de parler à personne, j'ai pas besoin de répondre à personne, j'ai pas besoin d'entendre la voix de personne. C'est des moments extrêmement précieux parce que ça me permet, encore une fois, là, d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, de laisser vibrer des choses qui étaient bien souvent submergées par le bruit ambiant, par le day-to-day, par le quotidien. Puis c'est pas une question que j'aime pas les gens ou que je veux pas être autour de gens, c'est vraiment une question que j'ai besoin de ce silence-là pour me retrouver. Donc, je me considère très privilégiée de pouvoir faire ça avec, justement, bon, une famille, une petite fille en bas âge et tout ça. Donc, je remercie tous ceux qui contribuent à cet espace-là que je peux créer pour moi pendant cette période-là. Alors, aujourd'hui, je voulais continuer la conversation qu'on avait entamé dans le dernier épisode sur le ressentiment. Puis je pense que c'est une émotion importante à prendre en compte quand on parle de marketing, quand on parle d'entrepreneuriat, parce que c'est une émotion, bon, tout à fait humaine, hein, le ressentiment, mais aussi ça se manifeste sous plusieurs formes. Dans l'épisode précédent, dont je vais mettre le lien là, ici dans la bio, dans les notes de l'épisode, on parlait plus spécifiquement du ressentiment en termes de positionnement. Je parlais de business, de brand, de marque qui essaye de se différencier des autres en se mettant en contradiction à des gens, des entrepreneurs, des méthodes qu'ils ont identifiées comme étant moralement inférieures. Et ici, c'est important le mot « moralement » parce qu'il y a quelque chose de très vertueux ou d'apparence vertueuse, ou on pourrait même dire bigot, hein, du bigotisme, dans ce type de positionnement-là où on utilise les autres pour essayer de jeter de l'ombre, throw shade, comme ils aiment dire en anglais, et éventuellement ben, manipuler le message pour se positionner soi-même comme étant supérieur. Tout ce qui est autour du marketing éthique, de l'authenticité, etc., c'est quelque chose que je vois encore plus dans ce genre de tactique-là. Puis bon, c'est de ça qu'on parlait dans l'épisode avant celui-ci que j'avais identifié comme la partie 1 de la conversation sur le ressentiment. Mais c'est pas juste ça, le ressentiment. Puis il y avait une autre dimension dont je voulais parler en termes de marketing, et c'est tout ce qui implique le ressentiment ou cette émotion-là qu'on ressent bien souvent dans la relation qu'on entretient avec nos clients, dans cette relation de confiance qui se crée quand, en tant qu'entrepreneur, ben, on ouvre des offres, on ouvre des espaces pour entrer en communication avec nos clients. Puis, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai en tête quand je parle de ressentiment envers nos clients parce que bien souvent, c'est un peu insidieux la façon dont ça va se manifester dans nos entreprises. C'est pas, on se lève pas un jour puis on dit « je vais cultiver du ressentiment envers ma clientèle », mais ça arrive de façon insidieuse sans même qu'on s'en rende compte parfois et ça a plusieurs symptômes. Et selon moi, c'est un type de ressentiment qui pollue nos entreprises et notre marketing. Et éventuellement, notre offre, notre prix et même la façon dont on va se sentir dans cette entreprise-là. Parce que vous allez probablement être d'accord avec moi, ressentir du ressentiment, c'est pas quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui vit en nous, même quand les autres s'en rendent pas compte. Puis moi, j'ai toujours considéré que la personne à qui je faisais le plus de mal en maintenant des émotions négatives à l'intérieur de moi, c'était à moi, parce que les autres, peut-être, ils sont même pas conscients que j'ai ces émotions-là envers eux ou peu importe, mais ça, c'est une autre conversation, puis c'est pas vraiment de ça que je veux parler, mais ce ressentiment-là, il pollue nos entreprises, puis bien souvent, ça va se manifester dans nos messages, dans nos façons de vendre, dans nos façons de faire des offres, et ça prend racine dans la relation qu'on entretient bien souvent avec nos clients. Puis, comme avec le marketing du ressentiment en termes de positionnement, ça va être basé bien souvent dans des mauvaises expériences ou des expériences traumatiques qu'on a vécues et qui vont nous pousser à vouloir se protéger. Puis là, on va se mettre à universaliser parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. On vit une expérience désagréable, une expérience traumatique. Le cerveau va identifier quelles sont ces informations qui vont nous permettre de ne pas répéter cette expérience-là. Donc, il est obligé de généraliser ce qu'il a vécu et d'en sortir des grands concepts pour dire, si tu te ramasses dans une situation où il y a X, Y, Z, il va falloir que tu te protèges puis que tu fuis, que tu te battes, tu sais, fight, flight, etc. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que comment moi je perçois les gens qui ont du ressentiment envers leur audience, souvent ça va se manifester par des choses comme on va rapidement éliminer les critiques de nos clients en disant de toute façon c'est pas mon public cible, on va rapidement les distinguer de qui on est. On va avoir tendance à pas leur faire confiance, ils ont besoin d'être pris par la main, on va créer énormément on va les surmaterner à quelque part parce qu'on ne fait pas confiance à leur capacité à prendre la bonne décision. Puis la bonne décision, dans notre tête, c'est de travailler avec nous. Bien souvent, le ressentiment, ça va se manifester au niveau du prix. On ne va pas vouloir charger un certain prix parce qu'on se dit « mes clients ne sont pas capables de payer ça, mes clients ont besoin de ça, ça, ça ». Ça rentre un peu avec le fait de les materner. On a l'impression, on hiérarchise dans le fond nos clients par rapport à nous-mêmes. On a l'impression qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, donc on doit les approcher d'une façon un peu plus sous-jacente, un peu moins directe. Puis, on va bien souvent aussi créer des parcours clients, des funnels qui vont être assez premier niveau, plutôt superficiels, parce que on va rester dans cette relation superficielle avec nos clients. Puis là, je veux répéter encore que c'est pas des choses qu'on fait de façon avec un mauvais état d'esprit ou parce qu'on veut blesser qui que ce soit. C'est bien souvent des choses qu'on fait inconsciemment, encore une fois, parce qu'on est dans des réactions traumatiques, des réactions traumatiques de s'être fait rejeter dans le passé. Puis quand je dis rejeter, je parle de clients ou de personnes qui nous ont dit non ou qui n'étaient pas prêts à travailler avec nous, des personnes qui nous ont parlé du fait que ça n'avait pas d'allure qu'on charge X, Y, Z, qui ont essayé d'utiliser la honte pour nous faire baisser nos prix, ce que je vais voir souvent aussi, c'est des créatrices et des créateurs de contenu qui vont dire « Je donne tellement de gratuit à mes clients, ça m'épuise, ils vont donner, et ils vont créer ce ressentiment-là à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils se disent « Quand est-ce qu'ils vont me redonner à leur tour? » Donc, il y a comme un débalancement au niveau de ce qu'on a l'impression de donner versus recevoir. Et toutes ces choses-là, ben, ça crée justement ces mini ou gros trauma à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre expérience entrepreneuriale, qui ensuite vont se baser dans ce désir de protection qui va se manifester par un type de ressentiment qui va ensuite se manifester parce que je vous ai nommé, hein, surchargé d'informations parce qu'on fait pas confiance à leur autonomie, vraiment rapidement les sortir, tu sais, ne pas entendre les critiques qu'ils pourraient avoir, critiques constructives que nos clients pourraient avoir en disant c'est pas notre public cible s'ils achètent pas, là là là, paternaliser, la hiérarchie implicite, puis tout ce qu'il y a au niveau des prix. Et naturellement, ben, quand on arrive dans ce type de relation interne, hein, et inconsciente avec nos clients, ça va avoir des effets réels sur notre entreprise, au niveau de la façon dont on va modéliser nos offres, dont on va communiquer nos offres et nos messages, et même parfois au niveau de nos appels exploratoires lorsqu'on va vendre et des choses comme ça, parce que à l'intérieur de nous, on est en mode on doit se protéger de ces personnes. Et si vous avez déjà travaillé avec moi, que ce soit dans mes mini programmes comme le challenge ou des choses comme ça, vous allez savoir que un des grands dons, puis c'est pour ça aussi qu'on appelle ça une offre de l'entrepreneur, c'est de se mettre au service de sa clientèle, mais pas comme un esclave, mais vraiment comme un guide, comme quelqu'un qui va les prendre sous leur aile ou qui va les aider à traverser certains obstacles ou des choses comme ça. Donc, c'est important qu'il y ait une relation d'égal à égal dans laquelle, ben, on va travailler dans le même objectif et non pas une relation de contradiction ou d'opposition qui va être davantage caractérisée par la lutte. Puis le ressentiment, c'est ça que ça va créer, c'est de la lutte parce que, à un certain niveau, ben, on va se sentir désemparé devant leur objection. On va avoir l'impression que n'importe quelle objection d'un client, ben, c'est lui qui essaye de soit extirper quelque chose de nous ou qui est en train de nous rejeter ou qui est en train de nous faire, entre guillemets, du mal, alors qu'il est simplement en train de communiquer un état interne qui, nous, comme entrepreneurs, est une information importante. Hein? C'est une information importante qu'on doit analyser pour savoir, ben, est-ce que réellement je suis devant un de mes clients de cœur? Est-ce que mon offre, peut-être, a besoin d'être réfléchie, mais c'est pas toujours, hein, c'est pas toujours l'un ou l'autre blanc ou noir. Tu sais, peut-être qu'il y a certaines choses que l'offre pourrait être réfléchie, tandis que cette personne-là n'est pas exactement notre client idéal, etc., etc. Mais si on est en réaction traumatique, on n'est pas capable d'avoir ces réflexions stratégiques-là pour ensuite prendre des bonnes décisions. Et ce que ça va faire aussi, tu sais, de avoir ce ressentiment-là, c'est qu'on va créer cette relation de méfiance, hein, parce qu'on va être dans l'opposition, et ça va nous donner de moins en moins envie de les servir. Puis c'est vraiment un cercle vicieux, hein, parce qu'on est en réaction traumatique, l'autre personne va être perçue comme étant en opposition, hein, le client va être perçu comme étant en opposition, peu importe ce qu'il va dire, s'il n'est pas 100% d'accord avec nous, puis s'il ne donne pas son argent pour valider notre propre sécurité, ben là, on va soit comme essayer de l'aliéner ou le rabaisser inconsciemment en le mettant en dessous de nous dans la hiérarchie, en se considérant comme en position de les materner ou peu importe. Et on va instrumentaliser ainsi nos relations avec nos clients parce que à ce moment-là, le client devient juste une façon de valider qu'on est en sécurité. Hein, qu'on est devant la bonne personne, que notre message communique bien, que notre prix est le bon, etc. C'est constamment une façon de se valider et de créer de la sécurité autour de notre entreprise à travers cette relation, alors que ma thèse, hein, ma façon dont moi je travaille, c'est que C'est la confiance que nous avons dans notre offre, notre service, notre message, notre prix, notre entreprise, notre expertise qui fait que les clients ensuite peuvent se sentir en confiance, à l'aise, écoutés, entendus pour entrer dans notre univers. Donc, on fait les choses, quand on rentre dans la relation de ressentiment avec notre client, c'est comme si on débalançait tout dans notre entreprise et qu'on perdait de notre pouvoir et de notre autorité dans ce qu'on fait, parce que là, soudainement, on est dans une lutte, dans une opposition, dans une contradiction. Puis si vous avez écouté le premier épisode, la première partie de cette série sur le ressentiment, bien, c'est la même chose qui arrive quand on essaye de se positionner en opposition, en contradiction, en lutte à quelque chose d'autre, on va invariablement perdre dans cette relation-là. Donc, quand on ressent que on est dans un mode ressentiment avec nos clients, bien, c'est important de, premièrement, se poser la question « Où est-ce qu'il y a une absence de sécurité dans mon entreprise? Hein? » Où est-ce que je suis en train de créer des hiérarchies morales ou des hiérarchies d'expertise ou peu importe avec mes clients? Où est-ce que j'ai pas une relation non hiérarchique avec eux? Et où est-ce que je donne le pouvoir à mes clients de me valider dans ma valeur, dans mes émotions, dans mon entreprise, etc. Et après ça, on peut commencer à travailler puis à dénouer cette relation toxique qu'on était inconsciemment en train de nourrir dans notre entreprise. Puis là, c'est sûr que c'est important aussi au niveau des messages, parce que moi, souvent, ce que je vois dans les communications, bon, puis quand je travaille avec mes clients, des fois, je le vois, hein, ça va se manifester hein, dans les messages, dans les publications, hein, ça va se manifester même des fois dans la façon de apprécier certaines méthodes de communication. Puis là, je donne un exemple vraiment concret, hein, je me rappelle d'avoir travaillé avec une personne et puis cette personne-là, elle avait un groupe Facebook et puis c'est un groupe Facebook qui lui apportait de la lourdeur. Puis elle comprenait pas pourquoi les gens y achetaient pas son programme. Puis elle donnait tellement de contenu gratuit. Puis là, petit à petit, il y avait plein de signes qui avaient du ressentiment qui se créait envers cette audience. Ils n'arrivaient pas assez rapidement. Trop d'appels exploratoires qui se soldaient pas par des achats. Trop de temps perdu avec X, Y, Z. Des demandes trop importantes de la part des clients. Puis ce que je vais voir souvent dans les conseils de marketing ou d'autres coach business, ça va être juste comme « Ah, mais non, mais... » Laisse faire avec eux, tu sais, comme laisse-les partir, c'est pas tes clients, etc. Concentre-toi sur ceux qui payent, concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Sauf que, en faisant ça, ben, on n'est pas en train de réparer ce qui était problématique dès le départ et qui était comment je peux en être arrivé à avoir créé des espaces dans ma propre entreprise. Hein, dans un groupe Facebook, c'est quelque chose qu'on a créé soi-même. Ou j'ai laissé rentrer ce type de ressentiment-là. Puis là, ça devient super intéressant en coaching d'aller explorer, bien, où j'ai pas respecté mes limites, où je crois pas en ma propre valeur ou que je suis pas capable de valider ma propre valeur, où je laisse aller mon autorité et que je la donne à quelqu'un d'autre, que ce soit mes clients ou un coach ou n'importe qui d'autre, hein? Où est-ce que je suis en train de créer des offres qui viennent pas de moi, mais vraiment de mon besoin de... correspondre à certaines normes ou certains standards dans mon industrie, etc., etc., etc. Donc, adresser le ressentiment au sein de son entreprise, c'est vraiment puissant après ça en coaching pour voir ben, où est-ce que je peux créer une entreprise qui feel davantage safe, sécure, épanouissante, nourrissante pour moi-même avant tout et de cet espace-là ensuite, commencer à communiquer avec les autres, commencer à créer des offres qui sont beaucoup plus alignées avec ce que je veux offrir, commencer à travailler dans des modalités qui font du sens pour moi et quand qui font du sens pour moi, mais de cet espace de sécurité, on est aussi en meilleure place pour entendre les besoins de nos clients, pour les accueillir d'une place d'empathie, de compassion, mais aussi de lucidité. De lucidité et de cohérence, parce que ce qu'on veut ici, c'est vraiment de la lucidité par rapport à ce qu'on perçoit comme signaux chez nos clients, et ensuite de se dire, ben, est-ce que je suis prête à les aider à ce niveau-là? Donc, c'est pas toujours une question de devoir changer ses offres, ses prix ou son entreprise, hein? Des fois, c'est juste une question d'aller se demander où est-ce que j'entretiens du ressentiment envers mon audience, mon entreprise, mon business, peu importe mes offres, parce que c'est là qu'il y a de l'information vraiment importante sur des systèmes ou des modes de fonctionnement qui ne me servent pas, mais que j'ai établi moi-même dans mon entreprise. All right. Je serais vraiment curieuse de savoir si ça résonne avec vous, hein, ce que je suis en train de discuter ici, si vous avez déjà ressenti ce genre de choses-là, si vous aviez déjà identifié que c'était justement un type de ressentiment que vous étiez en train de nourrir envers certaines parties de votre entreprise, y compris votre audience. Et voilà, juste au moins pour avoir une impression de comment vous jongler avec ces idées-là en ce moment dans votre entreprise et si ça vous a déjà passé par l'esprit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, non pas au niveau de votre offre ou de votre message, mais encore plus à la racine qui était dans la relation avec votre clientèle. All right. Sur ce, ben, j'espère que ça vous a fait réfléchir et puis, comme d'habitude, ben, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon nouveau programme qui va sortir probablement fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, si vous voulez être au courant de ce qui se trame dans l'arrière-scène et être dans les premiers à recevoir les informations sur ce qui s'en vient, abonnez-vous à mon infolettre, hein, mdamarc.com/infolettre, parce que c'est vraiment là que je mets toutes mes nouvelles, toutes mes informations, surtout maintenant que je suis un petit peu moins active sur les réseaux sociaux parce que, justement, je travaille fort sur ce nouveau programme qui risque de faire des étincelles. Je vais juste le dire comme ça. All right. À bientôt, tout le monde. On se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle semaine. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.